Nous allons vous présenter la valeur conformité enquête auprès des collégiens et des lycéens. Mais d'abord, j'aimerais donner quelques informations. Il y a Marie-Hélène Gros qui fait une thèse avec moi, qui suis Monique Var. Et en fait, nous occupons pas vraiment des enfants au sens strict du terme. Nous intéressons à la socialisation des jeunes. Et en fait, on travaille plutôt sur les jeunes à partir de l'âge de 12 ans et les jeunes adultes. Et moi-même, je travaille aussi sur les adultes et à tous les âges de la vie. Donc voilà, il fallait peut-être que je vous donne cette précision.
Et donc on va vous présenter aujourd'hui une petite enquête qui a été effectuée, comme Monique le disait, auprès de collégiens et lycéens. Le premier concept sur lequel... nous allons nous attarder un peu longuement. Enfin, le concept central sur lequel nous allons nous attarder, c'est celui de valeur. En fait, les valeurs, c'est donc un concept sur lequel, qui est relativement transversal à différentes disciplines des sciences humaines. Il est un objet d'étude qui constitue donc une clé de voûte. On peut noter qu'elles sont omniprésentes, mais délicates à appréhender. Schwartz, dont on va développer le modèle, dit également qu'il y a une relative absence de consensus sur la définition des valeurs. Et puis après, relativement aux valeurs, on doit tout de suite noter qu'il y a une sorte de discussion sur le fait de savoir si on est apte ou pas à les mesurer, est-ce qu'on a le droit de les mesurer. Si on garde un point de vue un peu philosophique, effectivement, on se rend compte que on peut être dans une perspective spéculative sans confrontation avec l'expérience, et dans ce cas-là on s'enlève le droit de mesurer les valeurs. Et puis d'un autre côté, il y a tout un corpus de données empiriques qui ont été recueillies dans le cadre d'enquêtes descriptives. On va parler notamment de l'European Value Survey qui se font souvent sans référence précise à un cadre théorique général. Et Boudon, par rapport à cette situation, notamment dans le sens des valeurs, mais également dans l'article sur les valeurs dans le dictionnaire critique de la sociologie, notait qu'il y avait vraiment une fracture entre positif et normatif sur ce concept, et que finalement il n'était peut-être pas possible d'approcher directement les valeurs. En fait, dans le cadre des valeurs dans les enquêtes de terrain, les valeurs ont été reprises, sont souvent en fait mesurées de manière indirecte. On a recours à des questions d'opinion dans différents domaines, ce qui fait qu'après on a les valeurs de la famille, les valeurs du travail, les valeurs politiques, etc. Notamment celle de l'European Value Survey, qui existe depuis 1981 et qui a été étendue, qui a été élargie à d'autres pays, qui maintenant s'appelle la World Value Survey. Par contre, donc, il y a deux personnes qui ont tenté de conjuguer à la fois l'approche empirique et l'approche théorique, en tous les cas dans le champ de la psychologie sociale. D'abord, Milton Rokitch, à partir de 1972, qui propose d'aborder toutes les valeurs de base sans référence particulière à un contexte. Et cette approche a été en grande partie reprise par Shalom Schwartz à partir de 1992. Il a présenté une théorie sur laquelle nous nous sommes appuyés pour l'enquête, dans laquelle qu'il a validé empiriquement par deux types de questionnaires différents, le Schwartz Value Survey et le Portrait Value Questionnaire. Alors pour Schwartz, en fait, l'important c'est de dire que les valeurs sont caractérisées d'abord par le fait qu'elles sont des concepts et des croyances qui sont en lien avec des affects, c'est-à-dire que si par exemple une personne... si pour une personne l'indépendance est une valeur centrale, le fait que son indépendance puisse être menacée va être catastrophique pour la personne, et qu'elle va tout mettre en œuvre pour préserver cette indépendance. Donc il y a un lien entre la croyance ou le concept et l'affect. Les valeurs sont aussi elles se rapportent à des fins ou à des comportements désirables. On peut parler de valeurs en référence à une personne, mais aussi en référence au groupe social. Un autre point qui est important, c'est donc dans la lignée de Rokitch de dire que les valeurs transcendent les situations spécifiques. Et de ce point de vue-là, en fait, Schwartz en fait une différenciation avec les normes et les attitudes qui pour lui justement sont en lien à des situations contextuelles. elles expriment des motivations, c'est-à-dire que on trouve indifféremment dans les textes de Schwartz le terme le terme valeur ou le terme type de motivation, et elles servent d'étalons et de critères pour juger et pour évaluer les comportements des personnes ou des événements, et pour également guider le choix des actions des personnes. Un autre point qui est important, c'est de dire que les valeurs sont organisées dans un système de valeurs, donc de manière hiérarchique, et c'est finalement l'équilibrage entre les différentes valeurs qui va permettre de faire le choix de tel ou tel type d'action dans une situation particulière. Et par ailleurs, elles sont relativement stables, c'est-à-dire qu'elles sont construites progressivement durant l'enfance. Normalement, elles évoluent après lentement, sauf en cas de situation de choc. Alors là, on a en fait dans le modèle de Schwartz une dizaine de types de motivation, et on a notamment des items qui sont relatifs, dans les instruments qu'il utilise, on a des items qui sont relatifs soit à l'égalité, soit à la loyauté, soit à la richesse, à l'ambition, et puis particulièrement par rapport à ce qui nous intéresse aujourd'hui, à l'obéissance et à la politesse. La politesse rentrant dans un type de motivation plus général qui est la conformité, et l'obéissance rentre dans le type de motivation plus général qui est la tradition. On a aussi des items relatifs au plaisir, à la créativité, etc.
Là, moi, je vais vous parler de la proposition théorique. Et Schwartz propose une structure universelle des valeurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cette proposition théorique est défendue par un aller-retour entre données empiriques qu'il avait repris à Rokitsch et qu'il a retravaillé. Et il y a eu des allers-retours entre enquêtes de terrain, mais les enquêtes de terrain, Rokitsch les a commencées dans les années 50, on va dire, et il arrive donc en 1992 à cette proposition théorique. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant, cette proposition théorique? Elle ne vous parle pas de l'importance des valeurs, mais de la structure universelle des valeurs. Et cette position théorique, je pense aussi, est une position quelque peu idéologique, dans la mesure où il cherche qu'est-ce que tous les humains ont en commun. Alors, il a eu l'idée de dire, bon, on ne peut pas dire combien il y a de valeurs. On peut dire qu'il y a 1000 valeurs, 2000 valeurs, 250 valeurs. En fait, le nombre de valeurs est incommensurable. Donc, il y a eu l'idée qu'on pourrait aller faire un cercle, et que d'abord, il y a deux oppositions importantes qui sont d'un côté l'ouverture au changement et l'autre la conservation, et un autre axe qui est l'affirmation de soi, moi, et un deuxième axe qui est son opposé, c'est le dépassement de soi dans l'idée d'aller vers les autres. En fait, lui dit qu'il a stabilisé son univers des valeurs en 10 types de valeurs qui, selon lui, balayent à peu près l'univers des valeurs communs. Alors, par exemple, il avait l'idée d'une autre valeur, c'était la valeur de spiritualité. Parce qu'il dit, dans toute culture, il y a de la spiritualité. Mais en fait, quand il a fait des tests sur les différentes cultures, il a vu que dans certaines cultures, la spiritualité, ça allait dans l'universalisme. Je vais un peu revenir sur les explications de ces termes. Et quand on allait dans d'autres cultures, c'était plutôt les valeurs de tradition. Du coup, il a exclu la spiritualité de la structure universelle, c'est-à-dire le commun dénominateur de l'humanité. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de valeur de spiritualité dans toutes les cultures. Et deuxièmement, il dit toujours, s'il y a des chercheurs qui travaillent avec moi, qui pensent à d'autres valeurs, ils peuvent en rajouter. Alors Béatrice, sa mère et moi-même, je n'ai pas le temps de vous raconter cela ici, nous avons pensé que nous avons ajouté la valeur vérité, et nous avons trouvé deux vérités. D'un côté, la vérité rationnelle et scientifique, scientifique, et de l'autre côté, ce qu'on a appelé peut-être la vérité ésotérique ou subjective et irrationnelle, puisqu'elle n'est pas irrationnelle, puisqu'il y a sa propre rationalité. Donc je ne vais pas vous parler de cette insertion-là. Et ce qui est intéressant dans le cercle, en fait, c'est que deux valeurs adjacentes sont compatibles, et les valeurs aux antipodes sont conflictuelles. Et quand on se trouve dans des situations, quand l'humain se trouve dans des situations, il va falloir qu'il arbitre entre des conflits de valeurs ou des compatibilités de valeurs, selon qu'il se trouve dans ces diverses, euh, dans, dans ces valeurs-là. Alors, bon, il y a des choses que vous pouvez comprendre tout seul et que je ne vous expliquerai pas trop. C'est l'autonomie, la stimulation, l'hédonisme. Alors, l'hédonisme, c'est violet et vert, parce que d'un côté, dans certaines cultures, ça fait partie des valeurs d'ouverture au changement, et dans certaines cultures, ça va faire partie des valeurs d'affirmation de soi. Et la réussite, c'est entendu au sens social. Le pouvoir, c'est entendu de façon globale au sens matériel et financier, et aussi au sens pouvoir commander, avoir de l'autorité, etc. La sécurité, ben, c'est à la fois une valeur individuelle et une valeur collective. Vous pouvez aussi voir que les valeurs dont je vous ai parlé, de autonomie à pouvoir, ce sont plutôt des valeurs assez individuelles d'affirmation. Et là, on rentre dans des valeurs plus collectives à partir de la sécurité qui est un mix entre l'individuel et collectif. Il y a sa propre sécurité, être en bonne santé, être propre, être rangé, etc. Et la sécurité nationale et l'ordre public, etc. Après, il fait une différence qui peut être intéressante pour nous aujourd'hui entre conformité et tradition. La conformité, pour lui, c'est une valeur. C'est pas le conformisme, hein, plus une norme et... La conformité, c'est quelque chose, mais c'est quand même quelque chose d'assez social. C'est-à-dire, valoriser la conformité, c'est par exemple valoriser la politesse, on prendra l'exemple après. Ça veut dire, on va mettre de l'huile dans les rouages sociaux pour ne pas rentrer en conflit avec les autres et pour rendre le rapport quotidien plus agréable. Alors que la tradition, je vais aller très vite, c'est quelque chose de plus central par rapport à ses propres croyances et convictions. Si on peut faire, enfin, donner une image rapide, peut-être que la tradition, c'est quelque chose de plus profondément ancré dans sa personnalité, et la conformité, c'est plus quelque chose d'assez extérieur à soi-même, quelque chose qu'on fait dans le jeu social, sans maîtriser. Alors, une autre chose qui est assez intéressante et dont il a eu l'idée, c'est de faire la différence entre bienveillance et universalisme. En fait, la bienveillance, c'est la pratique quotidienne, c'est être loyal avec ses amis, s'occuper des autres qu'on connaît. Voilà. Et l'universalisme, c'est la défense de l'égalité, de l'environnement, de façon abstraite, un peu. La tolérance aussi. Et ce qui est intéressant, il dit que la tolérance, c'est pas du tout quelque chose de moral, mais c'est quelque chose qu'on a acquis par l'expérience. Et en fait, c'est pour assurer sa propre sécurité. Quand on a compris que l'autre en face, qui est très différent de moi, si je rentre en conflit frontal, si je prends le pouvoir, ce que je vais faire au départ, l'autre pourrait peut-être m'anéantir. Et que c'est peut-être plus intelligent d'être tolérant. Et selon lui, et d'après les résultats qu'on a dans les divers pays, en fait, les pays les plus universalistes ne sont pas nécessairement les pays où les gens se disent être les plus bienveillants. Je m'explique, par exemple, et il donne l'explication, la France est le pays qui cote le plus haut les valeurs d'universalisme. Pourquoi la France cote le plus haut les valeurs d'universalisme? Parce que finalement, la France, alors c'est pas le terme adapté en France, mais au fond, c'est le plus grand melting pot historique. Vous vous souvenez qu'à l'école, vous avez appris que Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. Et moi qui suis alsacienne, je sais qu'il y a eu la guerre des Suédois. Donc en fait, la France est un pays de tel mélange que finalement, avec la tradition historique, etc., on va défendre très fort les valeurs universalistes, c'est-à-dire des points de vue théoriques. Mais je vais aller vite, la bienveillance va être plus fortement validée par des pays qui ont été plus souvent isolés. Comme la Finlande, tous les pays scandinaves, etc., mais qui vont donner plus de valeur à la bienveillance, c'est-à-dire à l'universalisme pratique, et à des autres moins différents, parce qu'ils sont à côté de moi. Voilà. Alors, en fait, et il dit que c'est commun à toute l'humanité, ça, parce qu'il l'a trouvé par des données venant des 5 continents, mais aussi parce que ces valeurs découlent de 3 nécessités universelles, qui sont satisfaire les besoins biologiques des humains. Par exemple, l'hédonisme, c'est l'origine, c'est biologique. Ça permet, les valeurs universelles, ça vont permettre l'interaction sociale, on peut parler de la bienveillance, on peut parler du pouvoir, etc. Et ça va permettre d'assurer le bon fonctionnement et la survie des groupes, par exemple la sécurité. Et quand même, ce qu'il faut savoir quand on voit qu'il défend cette proposition d'universalité, c'est quelqu'un qui, que je croyais nord-américain, certes, mais qui parle du haut de la chaire de l'université, de la chaire de psychologie sociale de l'université hébraïque de Jérusalem. Donc, quand on connaît le contexte, je trouve que ça prend encore une autre signification, le lieu dont parle ce monsieur. Et je vais aller rapidement. Donc, dans un premier temps, il a utilisé un instrument qui s'appelle le SVS, qui est très fortement repris à Rokitch, où il pose des questions. Alors, c'est intéressant pour nous Français, parce qu'on ne pensait pas qu'on pouvait dire aux gens, je vais vous donner une liste de valeurs et dites-moi quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous. En France, enfin, quand moi je suis rentrée là-dedans, c'était complètement une iconoclaste. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est cette culture de Coca-Cola, on pose ce genre de questions. Parce que j'avais lu Boudon et que j'avais été à l'école de la psychologie française. Et en fait, j'ai commencé à travailler là-dessus par défi. Je me suis dit, c'est complètement idiot son truc, je vais voir si ça marche. Et je me suis dit, mesure les valeurs, enfin, n'importe quoi. Et donc, il y a ce premier instrument, mais en fait, cet instrument, on a pu le critiquer parce qu'on a dit, vous avez trouvé une structure universelle des valeurs, mais c'est celle de l'intelligentsia, de l'ensemble des cinq continents. Parce que vous posez des questions à les analphabètes, est-ce qu'ils peuvent comprendre ce que c'est l'harmonie intérieure, etc. Donc, il a eu une idée où il a fait un jeu de portraits. Et moi, ce jeu de portraits, il a administré à des élèves de CM2 et de ZEP. Et ça a même marché là, si vous voulez. Il a essayé de le faire de façon orale. Il a utilisé dans des populations, par exemple, en Afrique du Sud, sur des Noirs d'Afrique du Sud qui ne savaient ni lire ni écrire. Et donc, l'idée qui est quand même très intéressante, c'est en fait qu'il a joué au portrait, parce que les portraits, même les petits-enfants jouent au portrait. Alors, voici une série de portraits. Pouvez-vous me dire pour chacun d'eux jusqu'à quel point cette personne est comme vous ou différente de vous? Si elle n'est pas du tout comme vous, vous pouvez entourer le code. Enfin, moi, j'écris le code 1, mais en fait, on fait mettre des croix même pour ne pas rentrer dans le système métrique, etc. Donc, voilà les deux outils qui sont utilisés. Donc là, le deuxième, vous voyez, est accessible à des CM2-2M. Donc, on peut l'utiliser dans plein d'environnements, on peut faire les enquêtes au téléphone, etc. Après, je vais pas rentrer là-dedans parce que je ne pense pas que le public soit intéressé et je n'ai pas le temps de vous parler de la validation empirique de la théorie de la structure des données, c'est-à-dire qu'il a validé ça avec les enquêtes qu'il a recueillies. En fait, ils sont dans un système anglo-saxon et ils travaillent techniquement avec la Smallest Space Analysis. Je ne vais pas vous raconter ce que c'est la Smallest Space Analysis, parce qu'en France, on utilise plutôt l'analyse factorielle des correspondances. Mais en fait, c'est quelque chose qui permet de voir la structure des données, et comme on va un peu vite et qu'on a peu de temps, on vous montrera après une structure obtenue, mais avec les méthodes de techniques statistiques françaises. Rassurez-vous, on a essayé les deux méthodes et les deux donnent les mêmes résultats. Youpi. Marie-Hélène va vous parler de l'importance. Et vous voyez, il fait une différence entre la structure qui est universelle et en fait, il dit, dans cette structure, on va pouvoir conjuguer les différences, alors soit avec des valeurs spécifiques qui ne sont pas dans la structure, soit chacun va donner une autre importance. Et donc, il y a la notion de structure d'un côté et la notion d'importance de l'autre. Et donc, Marie-Hélène va vous parler de l'importance.
Là, je vous présente les résultats d'une enquête qui a été faite sur la population, sur un échantillon représentatif de la population française, comparé à d'autres pays.
Européens.
Donc, c'est ce que disait Monique. En fait, on voit que la France est particulièrement forte sur toutes les questions d'universalisme. Et éventuellement bienveillance, elle est aussi un petit peu au-dessus de la moyenne des autres pays. Et par contre, elle rejette plus particulièrement tout ce qui est autour du pouvoir et de la réussite.
Dans les représentations, enfin.
Ensuite, voilà, ça c'est justement une représentation graphique des données d'une enquête de 1999 sur à peu près 6 000 personnes. Ce qui est important de voir, c'est qu'on retrouve effectivement la structure des valeurs telle que l'a décrit Schwartz, avec universalisme, bienveillance d'un côté, pouvoir et accomplissement social de l'autre, c'est-à-dire le distinguo entre dépassement de soi et affirmation de soi, et puis de l'autre côté tout ce qui concerne le changement, l'ouverture au changement, et puis la conservation. Donc on trouve les deux axes, effectivement, de différenciation. Et puis après, avec les variables sociodémographiques, on se rend compte que l'âge a énormément d'importance, puisque les 14-30 ans se situent plutôt du côté de la stimulation et l'hédonisme, et les 60-95 ans plutôt du côté de la sécurité et de la tradition. On voit un petit peu moins d'importance, enfin de différenciation sur la variable d'éducation, enfin du niveau d'éducation, et encore moins de différenciation sur la variable du genre. C'est vrai que Schwartz se reconnaît que finalement on trouve très peu de différence entre hommes et femmes.
Alors qu'on a toujours l'idée des valeurs féminines et masculines, et en fait, quand on fait des stats, en général, on prend des étudiants qui ont le même niveau d'éducation et le même âge. Donc, on trouve toujours des différences garçons-filles. Et quand on fait des grandes enquêtes, on voit que les valeurs changent, surtout avec l'âge.
Donc, en fait, l'importance des valeurs et les caractéristiques sociodémographiques montrent que les variables les plus discriminantes sont d'abord l'âge, puis le niveau d'instruction et ensuite le sexe. Là, on va rentrer sur l'enquête qu'on a effectuée, l'enquête scolaire qui a été effectuée.
On va commencer par une enquête
sur une population plus large également.
En 2005.
Qui a été effectuée. Cette enquête-là a été effectuée en 2004. On voit effectivement l'importance de l'hédonisme pour les jeunes gens, hein, pour les moins de 25 ans.
C'est l'hédonisme vient en premier. Alors sur l'ensemble de la population, ça vient en septième rang.
On reprend en fait dans cette enquête les résultats, à savoir que l'hédonisme arrive en première position, donc une valeur qui est autour de l'affirmation de soi. Et puis ensuite, on a l'autonomie qui arrive en deuxième position, puis bienveillance et universalisme, c'est-à-dire le dépassement de soi. Donc c'est assez étonnant, mais on a de manière groupée les valeurs autour de l'affirmation de soi, puis le dépassement de soi. Et par contre, tout ce qui concerne les valeurs statiques, c'est-à-dire tradition et conformité, c'est assez bas dans le classement pour les jeunes. Et on a effectivement un effet de l'âge sur la conformité qui est très important si on prend la population générale, hein, avec une croissance continue, aussi bien sur la conformité que sur la tradition. Et puis par rapport à notre échantillon, on trouve quelque chose qui n'est pas relevé par Schwartz, hein, justement, à savoir qu'on a un effet du genre sur l'obéissance et la politesse. On trouve que les filles sont que ce sont des valeurs un peu plus féminines, hein, qu'elles partagent un peu plus la valorisation de l'obéissance et de la politesse. Là, c'est uniquement par rapport à l'échantillon, parce que ça ne se trouve pas par rapport à... C'est-à-dire que là, c'est un échantillon qui n'est pas représentatif. On est passé par des centres d'information d'orientation pour toucher certaines populations, mais on n'a pas...
On a pris
de
les gens qui nous ont répondu, en gros. Alors que les autres échantillons dont on vous parle sont représentatifs de la population pondurée. Enfin, tutti quanti, ce qu'on doit faire.
Et toujours sur cet échantillon non représentatif, là par contre on retrouve un résultat de Schwartz, à savoir que le niveau d'éducation va avoir un impact sur... le niveau d'éducation des parents va avoir un impact sur les valeurs portées par les enfants, évidemment, et notamment que le fait pour les parents d'avoir un certain niveau d'éducation, là en fait on avait fait un distinguo entre les parents qui avaient un niveau d'éducation au moins supérieur au baccalauréat ou inférieur au baccalauréat. Donc les parents dont le niveau d'éducation est un peu supérieur au baccalauréat ont tendance à s'affranchir plus facilement des conventions et sont les enfants valorisent moins l'obéissance. Et par rapport à la politesse, on trouve effectivement le même type de résultat, à savoir que les enfants dont les mères ont au moins le baccalauréat s'affranchissent également un peu plus des convenances de la politesse. Ceci dit, ce qui est intéressant sur l'échantillon, c'est que finalement, par rapport à la politesse, c'est uniquement la mère qui a un poids, et on ne trouve a priori pas de poids du père sur cette
valeur. Au niveau de la catégorie socio-professionnelle, on ne sait pas s'il n'y a pas de poids du père dans l'éducation. On parle de la catégorie.
Là, on parle juste du diplôme.
Ouais. On parle juste
du diplôme. Et sur la catégorie. Voilà, donc c'était les deux seuls résultats qu'on voulait vous présenter. Il y en avait énormément d'autres sur cette enquête, mais on s'est limité à la question déjà de l'obéissance et de la politesse, et puis l'aspect du genre et l'aspect du diplôme des parents.